Bigouille, il y a mon mamie Bigouille. Oui. Mon père était chouan.
Ah bon?
Et oui, d'accord. Mon père a un nom de l'Ouest.
Oui, oui, c'est vrai. Et de la Piquelière.
C'est ça. Et moi, je suis bigouillaise par ma mère. Et j'ai passé tous mes étés, toutes mes vacances à Bigouille. J'ai crapahuté dans les ruines du castello. Je dis toujours qu'elle me rappelait Tipassa. Quand je respirais toutes ces herbes de Bigouille, à Oulustink, voilà. Et je pensais à Camus qui disait... Ici, les dieux parlent, etc. Et oui, et on sentait l'absinthe quand il parlait de Tipassa.
Ah oui, d'accord.
Et j'ai assimilé Bigouille et Tipassa. Bon, on peut faire pire, hein, vous me direz. Parce que papa m'avait beaucoup fait aimer Camus. Parce que mon père était un marin, il commandait le San Piero, beaucoup de Corses l'ont connu. Le San Piero, le Quéré, le Ville d'Ajaccio, le vieux Ville d'Ajaccio.
C'était des gros bateaux?
C'était, il y avait le Napoléon, l'ancien Napoléon, c'était des gros bateaux.
Des gros bateaux.
C'était des paquebots déjà.
Enfin, donc vous avez un souvenir de cette vie de votre père de marin qui partait.
Et oui, il partait. C'est pour ça que j'aime pas trop les tempêtes ni les valises. Parce que quand je voyais papa partir avec les Mistralades qu'il y avait à Marseille. Oui.
Il restait combien à bord?
Pas beaucoup. Il restait. Enfin, oui, il restait, mais il revenait quand même chaque semaine ici. Ce n'est pas comme ceux qui faisaient la côte d'Afrique.
Et vous l'attendiez sur le quai?
Quand j'étais en vacances, oui, je venais l'attendre. Il n'y avait que le vieux hangar tout au bout du quai. C'est du joli. Port de commerce. C'est des souvenirs, ça. Tous les porteurs qui montaient avec des cordages autour des épaules, qui montaient à l'assaut pour prendre les bagages. Et surtout les voitures que l'on soulevait avec des espèces de grosses pinces, de gros crabes. On soulevait les voitures pour les mettre sur le pont. Quai. Et le débarquement était aussi long. Embarquement, débarquement.
C'est fou, ça.
Oui, c'est fou, mais c'était une période magnifique. Enfin, c'était moins rapide qu'aujourd'hui, mais le temps n'avait pas la même valeur. Regardez tous ces gens qui ont travaillé sur des églises, sur des cathédrales.
C'est vrai.
Le temps n'avait du tout. Non, le temps n'était pas celui d'aujourd'hui. Donc, Bigouille, ça a été ma passion, puisque j'habitais au pied du castel, où ma vieille maison est au pied, là-haut.
Et... Un château du Moyen-Âge?
Oui. Alors, Bigouille, j'ai Christian Andréani, je travaille tous les ans avec lui, parce qu'il a recherché tous les lieux-dits en Corse qui portaient le nom de Saint-Martin, soit une chapelle, soit un lieu-dit, tout simplement un ruisseau, comme à Bigouille. Alors, à Bigouille, au pied du castel, nous avons le ruisseau de Bon Saint-Martin, c'est-à-dire le Bon Saint-Martin, parce que Saint-Martin est connu pour sa charité. D'ailleurs, la plupart des tableaux qui représentent Saint-Martin, même dans des églises corses, je me demande même s'il n'y a pas une fresque à Homès.
Ils ont découvert, puisque nous avons fait dans notre émission de Spertim, une très belle émission avec Eva Paul, sur cette fresque qui a été découverte à Homès.
Voilà, et moi je n'ai pas pu y aller. Voilà. Alors c'est une
charité. Cheval, je crois qu'il est à cheval.
Ben oui, c'est la charité de Saint-Martin. Saint-Martin était un militaire romain, un officier romain, et lorsqu'il a rencontré un pauvre hère, il a coupé son manteau. Il n'a pas pu le lui donner entier, parce que, a-t-il dit, il appartient à l'empereur. Alors il a gardé un petit morceau de manteau et il a donné l'autre partie au malheureux. Il était donc à cheval et de son épée, il a coupé. Les tableaux représentent toujours la même chose, c'est la charité de Saint-Martin. Donc rares sont les églises corses dédiées à Saint-Martin où il n'y ait pas une charité de Saint-Martin représentée. Il y a ce ruisseau de Bonmartine qui donne un peu plus bas, il descend sur une fontaine que moi j'appelle la fontaine des gouverneurs. J'ai sa photo là si vous voulez la voir, c'est pas une très belle photo mais c'est une fontaine monumentale. Avec tout un tas d'insignes, dont une croix génoise. Ce qui me fait penser qu'elle a été construite sous le banco de San Giorgio. Je vous en parlerai dans un moment. Parce que si ça avait été sous le vice-roi Vincentello, il aurait martelé les armes génoises. Donc, c'est une fontaine qui date de cette époque-là. On voit qu'elle a été construite par des compagnons, parce qu'il y a tout un tas de symboles.
Elle est au village même?
Elle est, oui, au village même. En dessous, on ne la voit pas au village. Elle est dessous, dans le lit du ruisseau. Sur la route qui va vers Fouriane.
Oui.
Il y a une j'ai fait refaire.
Oui, Foula, d'accord.
Voilà, je me suis bagarrée un peu pour faire refaire les marches, pour qu'on puisse y descendre sans se tuer. Et cette fontaine, donc, est très belle. Et elle porte le nom, une autre en dessous, plus petite, s'appelle la Mertinelle. Et c'est à cause de tous ces noms, Christian m'avait demandé les noms, bon, je les lui ai donnés. À partir de là, on fait chaque année... Tout un travail, je fais visiter la partie ancienne du village, la partie médiévale, le haut donc, avec la fameuse qui est dominée. Donc, il y a une place, une très belle place, que nous appelions Piazza Piazzo Dialzo, Mais en réalité, c'est la place où devaient se faire toutes les revues à l'époque des gouverneurs. Parce que le castel est quand même étroit. On ne pouvait pas y manier beaucoup de...
Tout le monde
ne
pouvait pas y rester.
Voilà, puis faire des maniements de chevaux, c'est impossible. Il y a la place en dessous, et cette place est dominée par la maison du vicario, maison occupée par Giovanni della Grossa.
Ah, Giovanni della Grossa était chez vous,
oui, il y a vécu, et oui, il était proche de Vincentello.
D'accord, c'est spécialiste lui qui a... du Moyen-Âge.
Et oui, hein, et c'est lui, et oui, c'est le grand chroniqueur, et c'est lui qui a raconté,
cette histoire,
par minute, le moment où Vincentello a gagné, a repris Bigouille en 1420.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là, pour donner une idée à nos
Vincentello
auditeurs ? Alors, Vincentello... 1420,
il est agité, là. Alors. Oui, oui. Alors, 1420,
on est
c'est
au Moyen-Âge,
le 24 juin, et Giovanni della Grossa a dit que c'est le jour de sa fête, donc il ne peut pas s'être trompé à la San Giovanni. Et ce jour-là, Vincentello a repris sa capitale, parce qu'il l'avait prise, perdue, parce que Bigouille, alors, c'était une position très difficile pour les habitants. 6 mois après, c'était Gênes qui reprenait, et puis après, c'était encore Vincentello. Enfin, il a quand même passé 10 ans de traversée du désert avant de reprendre Bigouille définitivement.
Il était en exil, alors, presque.
Pas en exil.
Enfin, en exil chez lui, en Corse.
Il était en Corse, mais il a même construit la citadelle de Corte. Donc, on lui doit quand même la citadelle de Corte. C'est-à-dire que Vincentello, il essayait de revenir, et puis il repartait dans sa base en Cinarca. Et puis, il allait essayer de... Bon, il était un peu comme Pascal Paoli, finalement, sempre a cavallo.
Yeah.
Paoli, quand on voit ses lettres et qu'on voit le lieu d'où elles ont été écrites, Murato, Dobu, Caccia, Dobu... Mais il était tout le temps.
Girao, non.
Girao, en plus, il valait mieux qu'il ne dorme pas trop longtemps au même à la
C'était
même.
Pas si sûr que ça.
Non, pas si sûr. Paoli avait toujours peur de la trahison.
Eh oui.
Ça ressort dans toutes ses lettres. Et son deuxième souci, c'était la poudre. Voilà.
C'est pour ça que Michel Gervergé Franceschi nous disait qu'il recevait volets fermés avec du liège contre les balles.
Eh oui, vous,
donc
voilà.
On imagine une époque
À l'époque de Paoli, très. Mais vous savez, la Corse, en gros, n'a connu que des périodes agitées. Vincentello, donc, en 1420, après plusieurs tentatives, se bat contre... Il a pris le castello de Biguglia, mais... Lionello, c'était un siècle avant. C'est celui qui a construit la première tour à Bastia. Campofregoso, voilà. Comment s'appelait-il déjà? Enfin bon, Tomasino de Campofregoso arrive à la Rinella avec des troupes armées de lance longue. C'est pour ça que sur mon bouquin...
Là, c'est les Génois, là.
Oui, oui. J'ai fait représenter la bataille de San Romano avec les lance longue et les grands chevaux caparaçonnés. Pour moi, ça a évoqué... La bataille de la San Giovanni, elle s'appelle
oui,
pas.
Ça s'est passé où?
Voilà.
À quel endroit?
C'était sous le village. Paolo Uccello avait fait la bataille de San Romano et moi, je l'ai baptisée la bataille de San Giovanni. Parce que... Et donc, Vincentello s'est porté à la rencontre de Campofregoso. Mais
génois,
lui,
donc,
voilà, génois.
Qui voulait imposer.
Bien sûr, grande famille génoise, oui, les Fregoso. Lui connaissait bien les lieux. Il les a fait aller dans un endroit, mais il cite les noms, moi je connais tous ces endroits, qui n'ont pas changé de nom depuis. Il les a fait entrer dans un petit chemin où il fallait marcher à la queue leu-leu. Et là, alors, il a pu leur tomber dessus et les détruire. Donc, Fregoso a été fait prisonnier, etc. Et Vincentello entre dans sa capitale. Il y restera jusqu'en 1432, même un peu plus. Il va gouverner la Corse. Il va même convoquer un synode. À Corte, vous voyez, il s'est occupé de tout. Seulement, un beau jour, il décide d'augmenter les impôts pour faire construire une galère supplémentaire. Ah, alors là, la galère, ça a été
ça
pour
fait
lui...
un peu comme les gilets jaunes, quoi.
Voilà, voilà. Il a
tout le monde.
Voilà, tout le monde, arro sur Vincentello. En plus, il avait, paraît-il, séduit une petite jeune fille de bonne famille. On pense que c'était une jeune fille de la famille des Bagnanin, qui est des seigneurs Bagnanin, qui avait construit la première tour de Biguglia, je reviens dessus. Et alors, tout le monde a dit à Rome, mais qu'est-ce que c'est cet homme? C'est un... Imagine, je pense que tous les chefs militaires devaient faire un peu la même chose. Hein. Hélas, mais bon, là, il a dû s'enfuir.
Guerre de pouvoir.
Eh oui, il a été arrêté par le patron de barque Spinola à l'entrée du port de Bastia, parce qu'il dominait aussi Bastia à l'époque. Et il a été transporté à Gênes, où il a été... exécuté. Donc, exit Vincentello, nous sommes en 1434. Alors, avant, nous avions eu les Génois ou les Corses avec l'oncle de Vincentello, Arrigo della Rocca. Arrigo, déjà appuyé par l'Aragon, qui faisait la
l'Espagne,
guerre à Gênes,
oui.
Voilà, l'Espagne, en Méditerranée, est venu à Bigou, il a donc tenir sa grande vedoute, sa grande assemblée, et il y est venu avec le drapeau à tête de mort. C'est pour ça que je dis toujours que Bigouille est un des premiers lieux, un des premiers castels où a flotté le drapeau à tête de mort.
Donc ça confirmerait que le drapeau à tête de mort peut venir d'Espagne.
Ah oui, enfin pour moi.
Voilà, parce que les chercheurs.
Pour moi, c'est le drapeau. C'est regarder en Sardaigne.
Oui, oui. De toute façon, l'Espagne, c'est les Maures.
Voilà. Oui. Ben oui, c'est la bataille. Voilà. Dites-moi, il y a eu le Cid, il y a eu.
Oui, oui, bien sûr.
Bien sûr, c'est la bataille contre les Maures. Mm-hmm. Hein.
Et puis il y a évidemment eu une grande population qui vivait en bonne entente, puisque tout le sud de l'Espagne, avant que l'arrêt d'Espagne ne,
oui, ne reprenne,
mais
oui,
tout ceci vivait.
Il y a eu 1480
musulmane, chrétienne,
oui, juive.
Oui, 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 juive.
Seulement, oui. Ça a été lorsque tout le monde pouvait exercer son culte librement. Mm-hmm. Mais souvent, les musulmans étaient très terribles. Hein, avec les chrétiens, on a des tas d'exemples de gens qui ont été exécutés pour
donc
vouloir.
C'est toute une histoire de pouvoir.
Oui, ah oui, toujours. Oui. Vous savez, même ça a pas changé.
Ça a pas changé.
Voilà. Donc après Vicente, il y a eu ce que j'ai appelé des maîtres éphémères. Alors Simone et Damar et le seigneur du Cap. Enfin, on a même eu le pape qui a dit je vais revendiquer la Corse puisque elle lui avait été dévolue à l'époque par Pépin le Bref. Mmh. Donc on a eu le pape. Bigouille a subi, le village de Bigouille, c'est ce que nous avons un peu évoqué tout à l'heure, des sièges continuels. Alors, les habitants de Bigouille, pas fous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient préparé des conventions et ils envoyaient deux ou trois ambassadeurs, et comme ils disaient, les négocier avec celui qui était en train d'assiéger la place. Alors, ça voulait dire, écoute, nous, on se fiche pas mal de ce que tu fais du castel, ou que tu le prennes ou pas, mais nous avons des franchises, nous voulons que tu nous signes des franchises. Et ils ont toujours signé une paix séparée avant. Donc les habitants du village, pour ne pas être mis chaque fois à sac par les nouveaux maîtres.
Sosta di Bioastud,
Maligni, voilà. Et ils ont signé des paix séparées. Mais on les a, toutes ces paix séparées. Parce que le chanoine Letteron les a transcrites. Elles sont toutes dans
vous
le bulletin
documents.
Des sciences. Ah oui, oui, oui. Elles sont toutes dans le bulletin des sciences.
En tout cas, Lucille, on va conclure avec votre idée de la philosophie de ce village. Justement, est-ce que vous parlez de ces paix négociées? Est-ce que finalement, ça n'a pas créé la mentalité de l'habitante, di trois, sempre, qualcosa, un compromis ou...
En principe, Diendo Baez et di Gastinet, di Genoese, di Gastinet, di Miridirgo.
Bon.
Là, c'était les Bigouillaises qui se retiraient. Mais il faut dire que pendant les révolutions, Bigouille a été souvent mise à sac et brûlée par les Génois.
Oui, donc...
Parce que les habitants de Bigouille ne voulaient pas rendre les
violents,
armes.
Violents, oui, oui.
Là, ça a
une
été
résistance,
violent. Là, c'est une résistance assez violente, voilà. Donc, quand je dis 1000 ans d'histoire, c'est que ça part du Castello. Giovanni della Grossa a dit que les seigneurs de Bagnard ont fortifié une roque où il y avait déjà une tour. Nous sommes en 1050, donc ça commence au moins à l'an 1000, et ça arrive très loin. C'est pour ça que j'ai intitulé mon petit travail là, de ces jours-ci, 1000 ans d'histoire. Voilà.
Superbe. Est-ce qu'on peut en avoir accès à votre travail, Lucille?
Oui, bien sûr.
Alors, on va sur quel? On va donner une adresse, quelque chose?
Alors, il faut que je mette tout ça sur...
En lien,
voilà. Il faut que je publie tout ça, oui.
D'accord, on attend la publication.
En principe, la mairie de Bigouille devait prendre quelque chose, mais je n'ai pas pu faire un résumé. En revanche, moi, je peux vous laisser le texte de ma conférence, si ça vous intéresse.
Très bien.
Voilà.
Je vous remercie et je dis qu'on va vous retrouver, parce que régulièrement, on vous retrouve sur un sujet, et puis vous, avec vous, d'autres personnes qui sont très intéressantes. Là, on a parlé du Moyen-Âge, notamment, et c'est une période qu'on connaît très peu sur
très
la Corse.
Peu, oui.
Et référence de Giovanni della Grossa, qu'on peut lire et relire, parce que on le prenait un peu pour un charlatan. Finalement, tout le monde s'y réfère aujourd'hui.
Vous savez que tous les chroniqueurs sont exacts, complètement exacts. Moi, je lis dans Philippines que les Turcs ont enlevé à Bigouille en 1564, le 9 août, 80 personnes. Je dis, oh, il est bien précis, lui, le 9 août, il les a emmenés en esclavage. Dans le Civil Governator, qui est un recueil de procédures, je vois une plainte d'une dame de Bigouille contre un autre Bigouillet. Un caporal, et si vous voulez, un jour on parlera des caporales de Bigouille, qui nanouvat ou...
Bon. Comte Gouti.
Alors, elle l'accuse de lui avoir volé une récolte de blé la nuit où la mère de la demanderesse fut faite prisonnière par les Turcs le 9 août 1564. Oh,
il y a la date,
c'est
tout
précis. Alors depuis, je ne plaisante plus avec les chroniqueurs.
Non, faut pas. Hein.
Voilà.
Merci à vous.
Allez,
à bientôt.
À presto.